Comment passer à l'auto-organisation au sein de votre équipe?
En fait, ce qu'on propose avec la GA, ou ce qu'on dit, c'est le manager, il reste dans ses entreprises, comme Orange, comme d'autres grandes entreprises. Il a vocation à garder le management humain et le management légal, mais à déléguer à l'auto-organisation dans laquelle il s'inscrit lui-même, comme participant, le pilotage des opérations.
Cette semaine, mon invité est Mickaël Drouard, cofondateur de Fabric, mais aussi co-auteur de La gouvernance adaptative aux éditions Pearson et hôte du podcast Pyramid to Circles. Dans cet épisode, Mickaël passe en revue les grandes technologies managériales amenant les équipes à l'auto-organisation et partage avec nous les fondements et les outils de la gouvernance adaptative ainsi que son impact pour les managers. Je laisse tout de suite la parole à mon invité.
Je suis Mickaël Drouard, j'ai 46 ans, cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Fabric, dont le métier est d'accompagner la transformation des organisations vers des modes de fonctionnement qui sont ceux d'une organisation digitale, c'est-à-dire beaucoup plus de transversalité, d'agilité, d'adaptabilité. Je suis aussi d'ailleurs l'hôte d'un podcast qui s'appelle Pyramid to Circles, où j'interviewe, je rencontre des personnes qui sont... des acteurs du domaine de la transformation, soit des entreprises, soit des penseurs, des consultants, des faiseurs, de sorte qu'on puisse répondre un peu comme tu le fais, comment est-ce qu'on peut inspirer. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de managers, de dirigeants se posent la question de la transfo, de faire évoluer la culture de leur organisation et ils ne savent pas trop comment faire. Alors, ils peuvent aller voir des cabinets comme Fabric, mais ils peuvent aussi déjà s'inspirer en entendant des personnes qui sont dans ce sujet-là. Et donc, c'est l'intention de ce podcast. Il y a une quinzaine d'années, on ne parlait pas beaucoup d'intelligence collective il me semblait que l'endroit où on pouvait faire un impact, où là on avait vraiment un défi, en fait la nature de nos défis était d'ordre systémique, d'ordre de l'interdépendance. Et en fait, on n'est toujours pas très bien armé, on a un grand chemin à faire. Mais ce qui m'a passionné, c'est en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de frontière ou d'innovation, de champ d'innovation. Et de technologie aussi à aller chercher, alors pas forcément techno, mais c'est pas des technologies sociales, des technologies humaines, mais de savoir-faire ensemble pour être plus intelligent ensemble pour faire face à nos défis. Et c'est la question qui m'a guidé en fait. Et c'est au début dans comment créer une conversation où on est nombreux, où on est plusieurs parties prenantes sur un défi, et puis jusqu'à comment on décide, comment on pilote un business, comment on développe une organisation. D'une manière qui intègre cette intelligence collective qui permet de mieux gérer la complexité. En fait, si on développe des personnes, si on devient des leaders, en fait, si on développe notre propre conscience de soi, et que finalement, on fait un chemin de conscience de soi, c'est-à-dire de développement. Alors, on appelle ça dans la société du développement personnel, dans l'entreprise du leadership, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire comment est-ce que je prends conscience de mon impact sur l'autre et comment je le gère et comment je ne suis pas dans l'instant en mode réaction, et dans mes instincts et de sans filtre. Ou plutôt de mes conditionnements, je deviens plus conscient et je vais gérer mon impact et parfois me retenir et parfois changer consciemment de manière de réagir pour être plus juste avec les autres et peut-être plus avoir l'impact que je souhaite avoir et la valeur que je souhaite créer. Bref, le développement du leadership années 70, et ça a continué et tout le mouvement du coaching, le mouvement du développement dans les organisations en fait, l'idée est qu'en développant les personnes, on va s'améliorer, on va améliorer le résultat. Et donc ça, c'est une grande tendance. C'est le capital humain au sens maximum, quoi. Et il y a une nouvelle idée qui apparaît, mais qui apparaît depuis longtemps, mais qui est en train d'arriver et qui maintenant devient centrale, c'est le capital social. C'est-à-dire, il y a une marge d'amélioration, non pas seulement dans le développement de la personne, mais dans la manière dont le collectif fonctionne. Et l'intelligence collective, c'est la discipline de concevoir ces effets sociaux qu'on souhaite avoir. Donc, par exemple, une équipe plus performante, par exemple, plus de confiance, par exemple, une capacité à décider plus vite alors que les choses deviennent très complexes. Donc, mais ça, on peut le générer non pas avec des personnes plus développées, mais plutôt avec des, ce qu'on appelle les architectures. On va créer des conditions, un contexte qui le permet, et ça, on va le designer.
Une nouvelle idée qui apparaît, mais qui apparaît depuis longtemps, mais qui est en train d'arriver et qui maintenant devient centrale, c'est le capital social.
Bon, la démocratie, ça reste une technologie très simple. Le vote, la majorité, c'est hyper simple. C'est pas adapté dans une entreprise à la décision complexe de dans l'instant, il faut décider, il faut produire, il y a un livrable, c'est pas bon, pas faire. La démocratie est adaptée à certains contextes. Mais donc, on a vu des méthodes, on va appeler ça des technologies sociales pour mieux gérer la complexité. Et donc, alors, moi, nous, on a une qui m'a apparu la première et qui était historiquement, je pense, depuis très longtemps, bon, c'est la sociocratie. Et la sociocratie a dit. Alors, la sociocratie, ça remonte, c'est ancien, parce que Auguste Comte, puis John Keynes, en fait, on retrouve les mouvements Quaker aux États-Unis qui fonctionnaient comme ça. C'est l'idée d'un collectif qui décide ensemble. Et ce qui sont l'idée de la sociocratie, c'est de dire, on va prendre une décision non pas par le consensus, parce que le consensus, ça nous prend un temps fou, et puis en fait, le consensus, c'est pas ce qui est le plus efficace, et c'est l'idée d'accommoder les préférences de tout le monde. On n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, on est là pour trouver une solution optimale, en fait, où on va, par rapport à une proposition, demander la permission de le faire s'il n'y a pas d'objection. Donc, la sociocratie amène une grande distinction qui est la notion d'objection versus préférence, c'est-à-dire on peut imaginer de suivre une idée à condition que personne considère qu'elle est dangereuse, néfaste, de manière logique. Donc la sociocratie a amené une forme de raisonnement dans la démocratie, une manière de dire ok, tu penses ça, mais pourquoi tu penses ça, et parlons-en, et on peut se confronter, et en fait c'est comme si l'intelligence collective se succédait même pour raisonner. On peut raisonner seul, on peut raisonner à deux, mais dans un collectif de 10, 15 personnes, 100 personnes, comment on fait pour raisonner? Ce n'est pas évident. Donc, c'est le premier pas. Et, et là où, naturellement, spontanément, on avait comme option de vote, le problème du vote, c'est que si vous avez 51% des gens qui sont pour et 49% qui sont contre, c'est beaucoup 49% qui sont contre. Il y a tellement d'énergie perdue, là.
La sociocratie amène une grande distinction qui est la notion d'objection versus préférence.
Donc, la sociocratie a amené cette idée de distinction, cette distinction entre l'objection, la raison objective valable pour laquelle on ne peut pas y aller, et la préférence, c'est-à-dire moi j'ai une meilleure idée, préférence, ça peut être j'ai une meilleure idée, ou je ne suis pas d'accord, ou je n'aime pas, mais je n'ai pas une raison valable. Et ça va permettre de débloquer des initiatives, de débloquer des possibles, et de contrebalancer les phénomènes qu'on a dans une organisation classique hiérarchique, où en fait le chef décide. Et donc, le chef a le droit d'avoir toutes les préférences, et en bas, on n'a même pas le droit d'avoir une objection. C'est pas l'intelligence collective. Et donc, dans un modèle sociocratique, il n'y a pas de chef qui peut avoir de préférence qui va forcer une décision. On a mis en place des modes de décision sociocratique, par exemple, dans des multinationales, là, dans les comités de direction, au comité exécutif. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les dirigeants aiment bien, parce qu'il y a une efficacité et une discipline. La discipline, en fait, est satisfaisante. C'est comme si vous faites un sport collectif. Quand vous vous disciplinez, c'est plus dur et plus agréable en même temps. Ben, c'est pareil dans un collectif. Et quand on applique de la sociocratie comme ça dans un collectif, y compris de dirigeants, mais ça peut être aussi dans une équipe très opérationnelle, en fait, ça oblige de monter son niveau et donc de se rendre compte de l'impact qu'on a sur le groupe. Exactement comme quand on fait du leadership, dont je parlais tout à l'heure, en fait, on devient plus conscient de soi dans le collectif. Et en fait, on va retrouver les mêmes, ces règles du jeu, ces architectures vont pousser les gens dans une conscience qu'ils n'ont pas en ayant fait un travail sur eux-mêmes, mais simplement parce qu'ils ont une expérience différente et des règles qui vont les obliger à faire ces changements et donc devenir plus conscients du collectif. Enfin, l'holacratie, après, est arrivée il y a une douzaine d'années à peu près. On est en 2021, donc désolé de chiffres, de dater cet entretien. Milieu des années 2000, Brian Robertson et Thomas Tomlinson ont créé l'holacratie, d'abord dans une expérience dans leur propre entreprise. Brian avait sa propre boîte, de développement de logiciels. Et puis, il était passionné, c'était un chercheur en leadership, organisation, etc. Et bref, il a compilé plein de choses, notamment venant de l'agile, du lean et de la sociocratie. Il a développé l'holacratie. Mais ce qu'il amène de vraiment intéressant, moi, je trouve, en tout cas, ce qui m'a plu, et c'est ce qui m'a plu à l'époque, c'est la notion de tension. Et en fait, il amène plusieurs choses. Il amène aussi la notion de rôle, c'est-à-dire que la limite de la sociocratie, c'était qu'on décidait tout par consentement. Donc, à un moment donné, on fait toujours se réunir pour faire des tours de cercle pour savoir s'il n'y a pas d'objection. Et ce n'est pas non plus efficace. Donc, il y a une avancée, parce que c'est plus sophistiqué. Donc, ça gère mieux la complexité. Mais c'est quand même un peu... c'était, en tout cas, beaucoup disaient... Peut-être, alors, entre-temps, ils ont évolué, la sociocratie. Mais en tout cas, il y a une quinzaine d'années, c'était un peu binaire.
Mais ce qu'il amène de vraiment intéressant, moi je trouve, en tout cas, ce qui m'a plu, et c'est ce qui m'a plu à l'époque, c'est la notion de tension.
En fait, on va travailler avec le vivant. Exactement comme quand on est... beaucoup d'approches humanistes et même de psychologie, on va juste chercher qu'est-ce qui se passe là maintenant, dans l'ici et maintenant, et dans l'agile aussi. L'agile, c'est être présent à ce qui se passe et à partir de ce qui se passe ici et maintenant, répondre, être en réponse à ce qui se passe maintenant. Pas ce qui se passait hier ou ce qui se passera dans 6 mois, mais maintenant. Et cette capacité à gérer l'instant, la réalité de maintenant, fait qu'on est en fait plus efficace, mais aussi c'est plus satisfaisant et il y a toutes sortes de bénéfices. Et puis après, il y a la sociocratie 3.0 qui a été inventée par des praticiens, alors des gens du métier, des facilitateurs, des coachs, des gens qui faisaient l'holacratie. C'est James Priest, Bernard Bockelbrink et Liliana David qui ont créé Sociocratie 3.0, qui est ils l'ont appelé sociocratie parce qu'ils voulaient honorer les origines de cette manière de penser qui sont la sociocratie en réalité. L'holacratie, finalement, une version de... Enfin, dans leur monde, la deuxième sociocratie, c'est l'holacratie, et eux, c'est la troisième. La limite de l'holacratie, c'est que c'était un corpus complet et vécu comme souvent un peu rigide. Parce qu'il fallait tout faire. C'est comme un Coca-Cola, il y a une recette. Si tu enlèves un bout, c'est plus du Coca-Cola. Donc, il ne faut pas changer un iota de la recette, sinon on ne peut pas. Et il y avait un peu ce côté, l'holacratie, c'est un ensemble, un corpus méthodologique et une philosophie qui n'est pas très adaptable. Et donc, Sociocratie 3.0 a repensé ça. Ce que James dit, c'est pas, il a pas parti de l'holacratie. En fait, il est parti de la sociocratie aussi. Il a fait c'est un peu en parallèle une autre émanation de la sociocratie. Et là, il s'appuie sur des pratiques. Et en fait, il dit, il y a pas une méthode, il y a plein de pratiques. Et ces pratiques, elles vont véhiculer de nouvelles cultures, elles vont véhiculer des nouvelles manières de faire. C'est ces architectures qui font qu'on fonctionne ensemble autrement et qu'on est plus capable de gérer de la complexité. Et en fait, la question n'est pas d'appliquer une méthode, mais plutôt d'aller chercher dans cette boîte à outils, finalement, dans ce menu, ce dont on a besoin maintenant et de l'adapter. Et donc, il est beaucoup plus dans une forme de confiance et de lâcher prise sur la méthode et de mettre au service des organisations des outils dont elles ont besoin en leur faisant confiance. Et je pense que c'est la bonne posture, parce que c'est beaucoup plus scalable, on va dire, en termes de passage à l'échelle et réaliste.
La question n'est pas d'appliquer une méthode, mais plutôt d'aller chercher dans cette boîte à outils, finalement, dans ce menu, ce dont on a besoin maintenant.
Il y a aussi la gouvernance adaptative, qui est notre approche, et c'est du bouquin, et qui est un peu entre les deux. C'est-à-dire, je vais faire un peu de critique. Je pense que la critique de la sociocratie, peut-être 3.0, c'est que c'est du coup un peu, il y a plein de trucs, mais comme par quoi je commence, c'est un peu. Et dans la GA, la gouvernance adaptative, il y a, je pense, à la fois une démarche et quelques repères simples et quelques principes, en fait. Il y a 6 principes. Et derrière ces principes, des propositions de chemin pour aller les mettre en place. Et c'est ça peut-être, en tout cas, c'est nous ce qu'on a voulu faire avec Yann Bresson et Stéphane Pensip. En tout cas, Yann Bresson qui est mon partenaire de crime sur ce coup-là, puis avec toute l'équipe de Fabrique, avec Eric Selzimmer, mon associé, c'est de créer en fait une approche adaptée au monde des grandes organisations. Et donc qui fonctionne dans un univers qui est hiérarchique extrêmement complexe, technologique, international, et qui peut se couler dedans, qui peut s'insérer dedans et en aidant à faire le pas d'après vers une organisation plus adaptée à la complexité, en fait.
Créer en fait une approche adaptée au monde des grandes organisations.
Alors, il y a 6 principes. Alors, le premier principe, c'est être une organisation qui est alignée avec sa raison d'être. Okay, donc, c'est quoi alors, il y a plein de manières de le dire, mais en gros, pour qui on crée de la valeur, qui sont nos parties prenantes, quelle valeur on crée pour eux, en quoi on leur permet de mieux dormir la nuit, ça, c'est notre valeur. Et donc, de clarifier ça et de s'aligner pour ça, donc de mettre ça au cœur, de mettre ça au centre, premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des rôles qui sont distincts des personnes. Donc, on va fonctionner par des rôles au service de cette raison d'être. Alors, ce n'est pas très différent des fonctions, des fiches de poste, etc., mais en fait, ça l'est parce qu'on ne va pas... on va se donner un outil qui est celui des rôles. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont un outil organisationnel qui s'appelle des postes. Et un poste, c'est souvent un plein temps. Une personne à plein temps et une personne, elle est embauchée sur un poste, sa fonction, c'est assez rigide. Et en fait, les rôles, c'est on va dire une responsabilité à tenir. Et une personne peut avoir un rôle, c'est de tenir un poste, mais il peut avoir un ensemble de rôles à différents endroits de l'organisation. Et donc, en fait, les gens vont aller tenir des rôles, mais ils peuvent tenir à différents endroits des rôles. Et là où dans leur poste, ils sont reliés à une place, un lieu, ils ont un chef, ils ont une équipe et ça, ils sont ancrés là. Alors, beaucoup de modes projet les font sortir de ça, mais en fait, c'est dit autrement, c'est un fonctionnement en mode projet. C'est comme si les gens et les boîtes qui fonctionnent en mode projet ont l'habitude de ça, mais on va mettre ça comme principe organisationnel. Et donc, il y a des rôles qu'on va créer ou faire disparaître ou faire évoluer dans le temps en fonction des besoins, de l'évolution justement de nos chaînes de valeur au service de cette création de valeur. Et on a besoin, par exemple, d'un rôle de gérer LinkedIn. On va créer ce rôle, c'est pas forcément quelqu'un qui va être embauché pour ça, on va créer un poste pour ça, mais c'est une personne qui va. On va clarifier les attendus de ce rôle, on appelle ça les redevabilités, etc. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les rôles sont autonomes. Donc, cette idée de. On n'est pas dans un modèle où, en fait, si je fais une erreur, c'est mon chef qui se fait taper sur les doigts, donc en fait, du contrôle, parce que du coup, il n'a pas intérêt à. Donc, cette idée-là, mais on va dire que la responsabilité, elle est à un seul endroit. Donc, si je suis responsable sur mon périmètre de tel sujet, je suis le seul dans toute l'organisation, il n'y a personne au-dessus. Et si n'importe qui peut s'adresser à moi pour ce sujet-là, et moi, je peux m'adresser à n'importe qui dans l'organisation pour un sujet dont il est responsable. Il n'y a pas besoin de passer par les remontées, redescendre, etc. Et ça, ça libère énormément l'autonomisation des personnes et la responsabilisation avec ces doubles tranchants, parce que d'un côté, ça libère de l'énergie et de l'autre, ça responsabilise aussi. Et ça induit quand même une certaine autonomie, on va dire, des personnes en termes de compétences et de motivation. Donc, ça pose ces questions-là, c'est un peu les limites du système, mais ça reste, je pense, un avantage. Le point suivant, c'est que la notion de tension. Donc, en fait, c'est l'idée que les tensions sont traitées. Toutes les tensions sont traitées. Donc, on traite les tensions comme des données. Donc, à nouveau, une tension, c'est un écart. Donc, si je perçois qu'un endroit est quelque chose qui n'est pas comme je pense que ça devrait être, c'est une tension. Ça peut être des choses... Je me rends compte qu'on est mal organisé pour produire et pour livrer tel truc. En fait, à chaque fois, on se marche sur les pieds ou l'informatique passe par l'information à tel ou la prod ou le marketing ne sont pas alignés. Donc, ça peut être des sujets organisationnels, ça peut être des sujets très simples. Je n'ai pas la ressource pour livrer ou je vais être en retard ou je n'ai pas l'information pour faire telle chose ou je sais, ou je n'ai pas la clarté dans ma tête sur je ne sais pas ce que je dois faire. Toutes ces tensions-là, en fait, qui en fait, bloquent et qui arrêtent l'activité ou qui réduisent font perdre le rythme, qui mettent les gens mentalement dans un état de stress, en fait, de confusion, de « je suis perdu », ce truc qu'on a tous, qu'on vit tous les jours. En fait, le plus vite ces tensions-là sont réglées, en fait, on remet de la clarté sur comment faire et ce qu'il faut faire, le plus l'organisation est dynamique et lean et agile, en fait. Et aussi, le mieux, les gens vont aller mieux, parce qu'il y a moins de tensions. Souvent, les crises, les gros problèmes, c'est des tensions qu'on a vues depuis longtemps, qu'on n'a pas traitées. Voilà, le point suivant, c'est que les réunions sont animées. Et elles ont un processus et un facilitateur. Donc, il y a un grand rôle qui apparaît. Alors, c'est une pratique qu'on retrouve dans l'agile, qu'on retrouve dans les Scrum Masters, mais qu'on retrouve dans beaucoup de méthodes, d'approches dans cette mouvance. Mais c'est l'idée qu'une personne, donc c'est un rôle du coup, est là pour s'occuper non pas du contenu, mais du contenant. Et si on veut ensemble, on a une heure, on a une réunion et on veut vraiment aller être efficace, c'est-à-dire on a des décisions à prendre, on a une conversation à avoir pour comprendre quelque chose ou pour s'orienter, ou s'informer les uns les autres pour se synchroniser, et ben, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Si on se met comme ça, comme à discuter, voilà, soit, alors, ce qui existe, c'est soit les modèles classiques où tout le monde rapporte au chef, qui est celui qui distribue la parole, ou alors vous avez les grands débats où en fait, la parole part dans tous les sens. Alors, c'est sympathique, mais en fait, on n'est pas très efficace. Donc, le facilitateur, et ça, tu es très bien placé pour en parler, je pense que tu en parles mieux que moi, donc le facilitateur est un rôle clé. Et puis, le dernier point, c'est la notion de next step et la notion de test and learn, où en fait, on va prendre des décisions pour où on va se dire, OK, on va baisser la barre de niveau d'attente, en fait. On va se dire si une décision est good enough for now, si c'est OK, on va tester. Si on peut revenir en arrière, à partir du moment où on peut revenir en arrière, et même si on n'est pas sûr, si le risque en fait n'est pas avéré, alors on peut tester. Et cette notion-là, on vous dit aussi le petit pas. On va fonctionner par petits pas. Et on va plutôt faire des petits pas que des grandes, chercher la grande solution où il faut passer un temps fou pour la concevoir, puis entre-temps, le monde a changé et puis la solution est plus adaptée.
Pour qui on crée de la valeur, qui sont en partie prenante, la valeur on crée pour eux, en quoi on leur permet de mieux dormir la nuit?
Bah d'abord, loin de moi l'idée de critiquer les managers, et je pense que ce n'est pas du tout le ton du livre. Enfin, je vais te raconter une histoire. Je me rappelle avoir accompagné une entreprise et le dirigeant, qui était un dirigeant assez charismatique, avait fondé cette entreprise et en fait, il est décédé. Donc, il y avait un choc fort. Hein. Les gens étaient attachés, une boîte d'une centaine de personnes. Et en fait, il y avait... La question était comment on remplace ce super manager qui était génial. Et il y avait deux options. Il y avait la possibilité de se dire, mais en fait, c'est pas. En fait, il ne remplissait pas un rôle, il remplissait plusieurs rôles. Peut-être qu'il faut, c'est pas une personne, mais peut-être qu'il faut repenser. Une gouvernance, c'est peut-être pas une seule personne, mais peut-être plusieurs personnes, et comment est-ce qu'on peut mettre en place en fait une logique d'intelligence collective et quelque part de sagesse pour orienter, notamment dans ce moment difficile, l'avenir de cette organisation. Et il y avait aussi l'autre option qui est de dire non, on va trouver quelqu'un qui va rentrer dans son costume exactement et qui va être un super... Il y a des gens... j'ai entendu la phrase, il existe des managers, des gens extraordinaires, on va pouvoir le remplacer. Et moi, je crois que ça, c'est une croyance. Enfin, je trouve que ce n'est pas sérieux de penser comme ça. Alors, quand je questionnais, en fait, ce n'était pas entendable. Et il y a quelque chose profondément ancré dans des organisations hiérarchiques qui est que, en fait, le gars qui est en haut, c'est quelqu'un d'exception. C'est quelqu'un de très... C'est un héros, en fait. C'est un super-héros. Et cette idée du super-héros, et pensons-le, d'ailleurs, je pense qu'on l'a tous un petit peu, mais... Alors, ça vient peut-être aussi, effectivement, les gens à la tête des grandes organisations ont souvent fait leurs preuves, mais bon, OK, ils ont fait des études brillantes, mais ils ont fait leurs preuves aussi, bien sûr, de manière opérationnelle. Je ne veux pas du tout minimiser, mais il y a au-delà de ça, en tout cas, c'était là dans ce cas-là, mais on le reçoit à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique, la croyance qu'au-dessus, il va savoir. Donc, je lui demande. Et... je pense que cette architecture, là, je reprends ce mot à nouveau, la manière dont on a conçu ou sont conçues les organisations pyramidales, et il faut de la pyramide, il faut de la hiérarchie, parce que la vie est aussi hiérarchique, il n'y a pas photo, on n'a pas toutes les mêmes compétences sur tous les sujets, je ne suis pas du tout dans la critique de ça, mais il y a des limites à ça, et il y a des coûts humains à ça si c'est mal géré, en tout cas si c'est pas suffisant, en tout cas. Cette croyance du super-héros, elle est risquée, parce qu'en fait, on va s'attendre à ce que quelqu'un sache résoudre le problème. Or, c'est impossible. La complexité, en tout cas, c'est possible quand le monde ne change pas trop, quand l'environnement est relativement stable, que ça va assez lentement. Là, quelqu'un pour garder la chaîne de valeur ou la chaîne de prod, et oui, contrôler que ça va. Mais quand on est dans des organisations, là, on a écrit ce bouquin avec deux personnes d'Orange, pour vous dire, tu connais bien l'entreprise aussi, la complexité, que ce soit du business, de la technologie qui change tout le temps, des métiers qui évoluent en permanence, de la taille de l'organisation, mais c'est impensable de penser que quelqu'un en haut puisse contrôler et avoir l'intelligence. Enfin, c'est juste pas possible. Et donc, on n'a pas le choix que de ne pas s'appuyer sur le cerveau d'une personne, mais sur le cerveau collectif. C'est beaucoup moins risqué, en fait. C'est beaucoup plus risqué que de cette croyance qu'il y a en haut quelqu'un qui peut y arriver pour de contrôler. Je pense c'est un, enfin il y a une partie qui est une, peut-être que je dis, peut-être qu'on pourrait certainement très largement critiquer ce que je dis, mais il y a une partie, une projection, une croyance, à mon avis, qui est pas assez challengée et qui est en fait un grand risque.
Eh bien, cette croyance du super-héros, elle est risquée parce qu'en fait on va s'attendre à ce que quelqu'un sache résoudre le problème. Or, c'est impossible.
Parce qu'il faut distinguer trois plans, en fait. Et ça, c'est une distinction qu'on propose dans le livre. On s'est inspiré d'ailleurs de la pensée de Encode, qui est une boîte qui fait un gros travail aussi de défrichage sur les organisations, sur des organisations agiles. Et en fait, il y a trois champs managériaux qui sont regroupés en un. Et en fait, quand on ne les distingue pas, ça rend les choses plus rigides. Et en les distinguant, ça permet d'amener de nouvelles marges de manœuvre et de repenser l'organisation du travail. Donc, il y a un premier champ, c'est le domaine humain. Donc, manager, il est humainement responsable des personnes. Si quelqu'un ne va pas bien, moi, je suis manager d'une équipe aujourd'hui, quand quelqu'un ne va pas bien, c'est fait partie de mon job de se poser la question comment il va, et puis j'espère qu'il ne fera pas un burn-out, etc., etc. Et puis aussi de son développement, est-ce qu'il est bien dans la boîte, est-ce qu'il est bien dans l'équipe, est-ce qu'il se développe, est-ce qu'il a envie de rester, etc. Ces questions-là donc, vont rester essentielles. Il y a un autre domaine qui est l'aspect légal. Donc, un manager, il est aussi gère un domaine, un champ relationnel, un contexte légal. Et ça va se traduire par le contrat de travail, mais ça va se traduire par des aspects de rémunération, d'augmentation, de parts variables, de bonus, etc., qui sont en fait le cadre contractuel, on va dire, qui s'inscrit dans le domaine de la loi. Il y a une loi derrière, il y a un contrat qui s'appuie sur une des lois, et donc on ne fait pas ce qu'on veut, mais le manager, il gère ça. C'est un deuxième plan qui n'a rien à voir. Et puis un troisième plan, et c'est souvent celui qui est le plus important dans le temps pris au quotidien, c'est celui des opérations. Le manager, il va gérer les opérations, ce qu'on fait, le pilotage du quotidien. Et en fait, ce qu'on propose avec la GA, ou ce qu'on dit, c'est le manager, il reste dans ses entreprises, comme Orange, comme d'autres grandes entreprises. Il a vocation à garder le management humain et le management légal, mais à déléguer à l'auto-organisation dans laquelle il s'inscrit lui-même, comme participant, le pilotage des opérations, parce que ces opérations-là, elles sont extrêmement complexes, elles sont de plus en plus complexes, et lui tout seul, en fait, c'est une erreur de penser qu'il va y arriver. Il se met en situation d'échec, enfin, en réalité, ou de surcharge, ou de super-héros, c'est-à-dire donc d'échec, c'est pareil, à terme, mais dans cette auto-organisation, il a un rôle. On le distingue du manager et donc on va parler de lead et d'ailleurs le manager peut ne pas être le lead de personne, donc on peut être le manager de personne mais comme en mode projet, hein. Ce qu'on dit c'est vrai dans toutes les boîtes de conseil, dans ces entreprises qui fonctionnent en mode projet où vous avez un manager qui en fait est le manager hiérarchique de quelqu'un qui ne travaille pas dans son équipe opérationnelle. Cette distinction là en fait amène beaucoup de flexibilité puisqu'on peut avoir des équipes qui sont en fait pensées pour des opérations et une structure qui va être au service des opérations et pas des opérations au service d'une structure. C'est vraiment une autre manière de penser les choses.
La vocation est de garder le management humain et le management légal, mais à déléguer à l'auto-organisation dans laquelle il s'inscrit lui-même comme participant le pilotage des opérations.
Finalement, s'il y avait une compétence que chacun, alors les managers bien sûr, mais encore plus les acteurs du changement, les managers, les dirigeants, mais j'ai envie de dire tout le monde, pour être capable de mieux gérer cette complexité qui nous touche tous et qui on la sent dans notre travail, dans notre vie, c'est en fait la présence. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, je disais en fait l'agilité, c'est la capacité d'être présent dans le présent en fait. Et je pense que la présence à soi et surtout à l'autre, donc l'écoute, ça paraît, ce que je dis, je sais, paraît extrêmement bateau et je m'en excuse, mais en réalité, pour moi, c'est très profond. Je pense qu'au final, la compétence que chacun peut, tout le monde peut développer, Et ça, ça fait vraiment une différence dans n'importe quelle, dans la vie de chacun, y compris dans l'entreprise, mais aussi dans sa vie en général. Plus on est dans une vraie présence d'écoute, qui ne va pas filtrer, juger, qui ne va pas être en mode réactif. Je réagis, mais je reste avec et j'essaie de ne pas mettre de filtre, et simplement je suis avec. Et en plus, du cœur, c'est-à-dire être en empathie avec la personne qui est en face, c'est-à-dire écouter avec son cœur aussi, si je dis simplement. On comprend ce qui se passe. Beaucoup mieux, on crée de la clarté. Et la clarté, c'est être agile. Je peux être agile quand je suis clair, je sais ce que je dois faire. Et en fait, créer de la clarté, c'est fondamentalement un des grands leviers, c'est vraiment écouter.
Je remercie Mickaël d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ASAP.